c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de La Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le... dans l'air du temps sur le 104.3 FM. Bonjour à vous et très très bonne matinée. Alors c'est la dernière semaine en hiver et ma foi, on ne s'en plaindra pas. Léonce de Ponte décrivait ce mois responsable de l'éclatement des bourgeons comme ceci. Mars, bien que rude encore, a des rayons subtils qui grisent lentement comme un premier sourire. Alors on espère qu'après le brouillard, évidemment, aujourd'hui, on espère que le soleil sera encore de la partie et nous réchauffera et la tête et le cœur et puis le reste.
Yo, yo, yo! Yeah! Accelerate, y'all. Yeah. One, two. Y'all know what to do.
Soon we, ce matin, au réveil, à côté de moi. Je me sens si bien, je n'ai plus besoin de rien. La vie est belle, facile comme tout. Je subis tes câlins, je sommeille à côté de toi. Je respecte pas, ça me convient à tel point que j'oublie les soucis qui me guettent au pied de mon lit. Et pour qu'elle me parle, te sourire ce matin. Je me sens bien. Tu souris quand tu me dis que tu piches pas, on se crée des ennuis. Quand on peut être si simple qu'on n'a besoin de rien. La vie est belle si comme nous. Je réponds que j'y sommeille et que ça se voit. Et qu'est-ce qu'on se fout de ces gens qui se nous. Moi j'oublie, moi je t'aime. Après tout c'est pas mon problème. Et quoi qu'elle me porte ma journée, on pourra plus me la gâcher. Me stresser de sourire.
Axel Red, eh bien j'espère que vous aussi vous vous sentez bien à l'écoute de votre radio. On a nous aussi le sourire et donc tout va bien.
La radio plaisir.
Alors, vous l'avez peut-être lu dans la presse, le ministère vient de publier son rapport annuel sur l'environnement en France. On en verra les grandes lignes et les principaux constats avec Jean-Louis Ouattet, et ce, bien sûr, dans notre rubrique « Saletant sur la planète ». Et puis, rubrique animalière ensuite avec Christine Defort de la SPA d'Artois, qui nous parlera de l'empoisonnement chez le chat.
Radio Plus, appréciez la différence.
Elle est là, elle me réveille comme un essaim d'abeilles, la radio. Ma radio. Celle qui photographie ta voix, madame de compagnie. Je l'allume et elle me suit. Avec ses ritournelles, la radio. Ma radio. Celle qui chantonne à mes oreilles un genre de petit bonheur. Je l'attends, elle me dit tant de choses. Elle est là quand il n'y a personne. Elle me berce. Des bonnes nouvelles, infos ou météo à la radio. Ma radio. Celle qui ne s'essouffle jamais au cœur des insomnies. Perchée sur un meuble, dans un taxi, une épicerie. La radio. Celle qui donne l'heure au temps passé me plonge dans le présent. Elle est là, immobile, elle résonne. Sa présence me rassure et me plaît. Quand j'entends défiler les personnes, des mots, des airs, des histoires. N'est peut-être pas le tien, mais la radio. Ma radio alimente mon imaginaire, a construit un château. Elle est là, c'est elle qui m'accompagne. Elle respire, je l'entends grésiller. Elle m'appelle, j'adore quand elle me parle. Ah, la radio.
la grande Sophie, sa radio. Alors bien sûr, elle est branchée sur le 104.3 FM, bien évidemment.
Radio Plus, appréciez la différence.
Alors notre enquête dans l'air du temps, dans quelques minutes, nous parlerons environnement avec Jean-Louis Boitet de l'Étrême Nature. Et je doute que cette enquête le rende enthousiaste. En effet, il n'y a que 1,9% d'actifs qui vont travailler à vélo. Moins de 2%, ce n'est quand même pas énorme, mais cela n'améliorera pas, bien sûr, la présence de CO2 dans l'atmosphère. Et pourtant, plus rapide que la marche à pied, moins polluant que la voiture ou le scooter, plus fiable et flexible que les transports en commun, le vélo a théoriquement beaucoup d'atouts pour les déplacements du quotidien, en particulier pour aller travailler. Pourtant, moins de 2% des Français l'utilisent comme moyen de transport principal pour se rendre à leur emploi, selon donc cette étude publiée le mardi 17 janvier par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, c'est-à-dire l'INSEE. Et bien sûr, je devrais dire, malheureusement, c'est la voiture qui reste reine, et ce, même sur un trajet de moins de 1 km, ce qui est là quand même un petit peu dommage, vraiment dommage.
Se rapprocher, s'avancer puis s'emballer, pédaler et s'en aller. Pour repasser, dans la montée, la suée et un terrain s'est sonné. We'll be right back.
Vélo, c'était Ours. Le Ours, c'est le fils d'Alain Souchon. Et comme je vous l'ai dit, pour notre rubrique Saltan sur la planète, on retrouve Jean-Louis Ouattet.
Saltan sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, le ministère vient de publier son rapport annuel sur l'environnement en France. On en parle donc dans l'air du temps avec vous, Jean-Louis Ouattet, qui œuvrait toute l'année avec votre association Les Traits de Nature pour préserver cet environnement et sa biodiversité. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, rapport, certes, mais Jean-Louis, par qui est établi ce rapport et quelles sont les choses prises en considération ?
Oui, alors donc faut bien préciser que c'est un rapport qui est publié par l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Ce qu'on
donc,
appelle l'AE.
C'est l'AE, tout à fait. Donc cette instance, elle donne des avis rendus publics sur les évaluations des impacts des grands projets, des programmes sur l'environnement, sur les mesures de gestion qui visent à éviter, atténuer ou compenser les impacts, par exemple la décision de tracer d'une autoroute, la construction d'une ligne de TGV, d'une ligne à haute tension, mais aussi des projets locaux, dès lors que ça dépend du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargé des relations internationales sur le climat, et que ces projets sont soumis à études d'impact. Donc savoir que l'autorité, ce qu'on appelle l'AE, donc c'est une autorité environnementale indépendante qui veille à écarter, donc elle veille à écarter toute suspicion de partialité, voire d'instrumentalisation de ces avis. Donc les délibérations sont collégiales et puis elles se composent de 15 personnes, donc qui sont des personnes qui sont reconnues pour leurs compétences et donc en environnement. Donc il y a des projets, des plans, des programmes qui sont soumis à l'évaluation environnementale en fonction de leurs caractéristiques propres et de leurs impacts sur les milieux. Donc l'AE va exercer cette compétence dans deux cas. Lorsque le ministre chargé de l'environnement et l'autorité chargée au titre de l'une des compétences ministérielles de prendre la décision d'autorisation d'un projet ou de la proposer au gouvernement, ou bien par les maîtres d'ouvrage ou les pétitionnaires du projet. Donc voilà, donc les avis s'adressent aux pétitionnaires, aux maîtres d'ouvrage, elles s'adressent au public et puis à l'autorité chargée d'approuver un projet ou un plan.
Alors Jean-Louis, je suppose que pour établir un tel rapport, il faut des données qui émanent d'organismes agréés ou d'associations ou alors je ne sais pas...
Disons que les projets sont pris en amont. Il ne s'agit pas d'aller dans la réalisation du projet, mais c'est d'aller voir si le projet et s'articule bien avec certains plans et programmes, ou si des notions sont prises en compte suffisamment, comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air, sur le bruit par exemple. Donc tout ça sur la fonctionnalité aussi des projets. Généralement, j'ai lu dans le rapport que certains projets, en fait, la présentation était trop ciblée. Je prends un exemple que j'ai lu, c'était la nouvelle gare de Nîmes. Ce qu'on reprochait, c'est qu'on ne prend en compte que la construction de cette nouvelle gare, on ne prend pas en compte le trafic ferroviaire, et on ne prend pas en compte non plus assez dans le projet la connexion avec la ville et puis les utilisateurs. Donc tout ça, l'autorité environnementale va pointer du doigt ces insuffisances.
Et alors, si vous me permettez, la semaine dernière, nous avons parlé du PLU et de concertation citoyenne. Alors, ouais. Est-ce que là, la concertation citoyenne est prise en considération ?
Oui, parce que justement, l'un des objectifs importants de l'autorité environnementale, c'est de prendre en compte l'environnement dans les projets et que ce soit lisible, que les informations soient lisibles pour le public. Donc c'est justement mettre l'accent sur la concertation avec le public, la participation du public, et que ce projet soit lisible et à portée du public.
Alors, Jean-Louis Ouattet, au nom de votre association, vous faites souvent appel au public, justement, pour collecter des informations ou faire un comptage afin d'établir des données sur la nature et surtout sur la biodiversité pour étudier leur état de santé. Et ce, bien sûr, dans une démarche scientifique, cela s'entend. Alors, ces sciences participatives, comme on les appelle, servent-elles à établir un tel rapport ?
Bah, elles ne servent pas directement à établir. Bon, c'est pas un rapport sur l'état de nos milieux. Hein, ce rapport, il décrit pas, il dit pas, attention, voilà, on a une disparition des papillons, ou les oiseaux sont menacés, ou les abeilles sauvages, etc. Donc il dresse pas un rapport sur l'état de nos milieux, mais les données qu'on va fournir vont montrer justement l'état de nos milieux, puisque nos données vont partir sur le réseau par exemple, réseau des acteurs de l'information naturaliste, c'est ce qu'on appelle en abrégé le RAIN, R-A-I-N. Alors ces données vont être intégrées au niveau de données plus importantes, et ils vont permettre de voir l'état de la faune, par exemple, que ce soit des coccinelles ou des plantes. Et à partir de là, on va prendre en compte les projets. Est-ce que ces projets, après, sont de nature encore à aggraver la situation ou à l'améliorer? Donc nos données, en fait, ne vont pas être reprises telles quelles, mais elles participent justement à l'état des lieux de la faune et de la flore. Et donc, est-ce que les projets qui sont présentés justement au ministère de l'Environnement, ou qui sont portés par le ministère, eh bien, vont encore aggraver la situation ou sont de nature à l'améliorer? Et ça, justement, l'agence environnementale a son mot à dire là-dessus.
Et Jean-Louis,
j'espère avoir été clair, parce que c'est pas des sujets très très faciles.
Dites Jean-Louis, alors d'après vous, hein, ou d'après je sais pas quelques lignes de ce rapport, comment justement est l'état de nos milieux? Y a-t-il du mieux ou du moins pire, hein, comme diraient certains? Ou alors est-ce franchement désastreux? Ou peut-être y a-t-il des choses qui s'améliorent au détriment d'autres? Vous pouvez peut-être nous faire un rapide tour d'horizon.
Bah, il y a des choses qui s'améliorent, puisque l'objectif de l'agence environnementale, c'est justement qu'une meilleure prise en compte de l'environnement dans les dossiers. Et il faut savoir qu'on a quand même été à ce niveau-là repris par l'Europe. Hein, on critique beaucoup l'Europe, mais l'Europe a imposé à ce que justement cette évaluation environnementale soit mieux prise en compte, et la France donc a dû prendre des décrets. Et ces décrets sont assez récents, puisque c'est un décret qui date de 2016, et donc qui suit les conséquences de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État, donc nécessité de mettre en place des autorités environnementales disposant d'une autonomie réelle et pourvues de moyens administratifs et financiers. Donc je pense que là, on va dans le bon sens.
De toute façon, enfin, moi, j'ai lu dans le rapport, par exemple, c'est un tout petit exemple, il y a moins d'oiseaux dans les champs et dans les bois. Et on y reviendra, Jean-Louis, un de ces jours, dans une de ces émissions.
Oui, de toute façon, c'est clair que là, sur les milieux, il y a quand même beaucoup à dire. C'est vrai qu'on a une situation qui est inquiétante, et justement, il faut que dans les projets qui sont portés soit par l'État, soit par les maîtres d'ouvrage, il faut que justement on accélère pas justement ces processus, et qu'on améliore justement la situation, que ce soit au niveau de la faune et de la flore, mais que ce soit aussi au niveau du bruit. Hein, je pense exemple du bruit. Ce que dit le rapport, c'est que la plupart des dossiers peinent à aborder dans leur ensemble des nuisances sonores de nature différente sur un même territoire. Donc, c'est-à-dire, c'est souvent le cas, par exemple, des pôles d'échange multimodaux autour desquels se superposent des bruits de train, de gare, de voies d'accès qui sont soumis à des réglementations différentes. Alors par exemple aussi, le cumul des nuisances terrestres et aériennes n'est jamais traité. Donc tout ça, je veux dire que l'autorité environnementale pointe du doigt justement ces insuffisances.
Mais alors justement, Jean-Louis, peut-on être optimiste quant à l'avenir en nous disant que si on continue les efforts, les choses ne pourraient que s'améliorer? Ou alors est-ce qu'on continue de couler, vous savez, le syndrome du Titanic, comme le qualifiait Nicolas Hulot?
Moi, je suis toujours optimiste. De nature assez optimiste, vous le savez. Et donc, je pense que, tous ces organismes qui se mettent en place vont permettre justement d'améliorer la situation. Maintenant, quant à dire que tout va s'améliorer rapidement, non, et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et on le voit justement dans si on en revient à nos sorties inventaire, qu'on a quand même des raisons de s'inquiéter et d'agir le plus vite possible.
Tout à fait. Alors nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur tous ces sujets, et à la fois pour constater et pour essayer d'apporter notre contribution pour un mieux. Et Jean-Louis, nous, bien sûr, nous comptons sur vous pour continuer à nous éclairer et à nous guider dans le comportement à adopter.
Je l'espère.
Jean-Louis, merci. Bonne semaine à vous.
Bonne semaine et alors, à la semaine prochaine.
Oui, et justement, nous nous retrouverons le premier jour du printemps. La semaine prochaine, ce sera le premier jour du printemps qui donnera le coup d'envoi la semaine pour les alternatives aux pesticides. Et nous en parlerons donc, car le clou a sans doute encore besoin d'être enfoncé.
Ah oui, il y a encore du travail.
Tout à fait. Jean-Louis, merci. Très bonne semaine à vous. Au revoir.
Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine. Les enfants, chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide. Fatiguée, pleine, plate, pleurer.
Eh bien oui, après le fils, le père, c'était donc Alain Souchon.
Paul Léoto disait « Les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelles merveilles de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre et je parle de toutes les bêtes. »
Bonjour Christine.
Bonjour Martine et bonjour à tous.
Alors lors d'émissions précédentes et partant d'un triste fait divers, nous avions donné quelques recommandations à la fois pour éviter l'empoisonnement chez le chien et puis aussi pour apprendre à reconnaître les symptômes. Mais m'avez-vous dit, il est important de faire la même chose pour le chat, ce qui pourrait aider certains maîtres à sauver leur animal le cas échéant. Alors quelques-unes de nos prochaines émissions seront donc consacrées à ce sujet, car il est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Alors Christine, il est beaucoup plus fréquent de voir un chien s'empoisonner parce que le chat de nature méfiante ne porte pas tout ce qu'il trouve à la bouche et il est doté d'un sens du goût très sélectif. Il est vrai que les chats n'ont pas le même comportement alimentaire et les chats sont très difficiles, mais néanmoins, d'après une enquête faite auprès des urgences vétérinaires, il faut quand même savoir que près de 10% des appels donnés par les propriétaires de chats concernent un empoisonnement éventuel. En raison de leur nature curieuse et de leur obsession pour la propreté, les félins domestiques peuvent parfois se trouver dans des situations dangereuses et il est toujours utile de savoir détecter les symptômes d'un empoisonnement et de connaître les bons réflexes à avoir. Alors d'ailleurs Christine, quels sont les poisons les plus couramment rencontrés par les chats ?
Eh bien, les poisons les plus couramment rencontrés par les chats sont les insecticides, mais aussi les produits ménagers, les plantes toxiques, et oui, ainsi que certains aliments destinés aux humains qui contiennent des substances chimiques qu'un chat ne peut pas assimiler. Comme vous disiez, Martine, un chat est d'une nature curieuse, et comme un chat ne se promène pas sous contrôle de son maître, eh bien, il y a beaucoup plus de risques d'empoisonnement qu'un chien. Et puis il y a les empoisonnements aussi volontaires que nous rencontrons aussi fréquemment, Martine.
Alors justement, Christine, quels sont les symptômes d'un empoisonnement ?
Eh bien, si vous observez les symptômes suivants, c'est-à-dire des difficultés respiratoires, des vomissements, de la diarrhée, des irritations gastriques, de la toux et des éternuements, un abattement subi, une salivation intense, des tremblements et des contractions musculaires involontaires, une faiblesse et un éventuel état d'inconscience, des pupilles dilatées, un besoin fréquent d'uriner, des frissons, voilà les principaux symptômes d'un empoisonnement.
Alors, Christine, justement, quelle est la première chose à faire ?
Eh bien, il faut surtout le mettre dans un local qui soit bien aéré quand vous soupçonnez que votre chat vient d'être empoisonné et qu'il est couché sans connaissance ou qu'il est très faible ou qu'il a tous ces symptômes dont je viens de vous citer. Il faut l'emporter immédiatement dans un endroit bien aéré et clair. La première réaction d'un chat qui ne se sent pas bien, il faut le savoir, eh bien, la première réaction, il se cache. Donc, vous devez surveiller les symptômes de l'animal. S'il a été empoisonné, il n'est donc pas indiqué de le laisser se cacher quelque part. Donc, vous le prenez dans vos bras, vous l'emportez dans une pièce sûre où il ne peut pas se cacher sous un meuble ou sous un lit, par exemple. La cuisine, la salle de bain convient parfaitement, car vous avez aussi besoin d'accéder à une source d'eau. Il faut aussi enlever ce qui a pu causer l'empoisonnement et le mettre à l'abri. Des animaux comme des humains, si bien entendu le produit se trouve à proximité et si vous l'avez identifié, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Encore faut-il avoir identifié le produit. Alors, je suppose évidemment que tout de suite après cela, il faut appeler le vétérinaire, mais de toute urgence.
Bien sûr, il faut immédiatement appeler un vétérinaire pour avoir des conseils. Donc vous pouvez aussi appeler, il y a des services d'urgence vétérinaire, hein, lequel vous reliera automatiquement à la clinique la plus proche de chez vous. C'est la première chose à faire une fois que vous avez mis votre chat en sécurité. Une écoute vétérinaire professionnelle donc vous aidera surtout à ne pas vous affoler, à vous donner les instructions claires sur ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez donner à votre chat empoisonné comme antidote. Les chances de votre animal seront plus grandes si vous appelez un vétérinaire le plus vite possible. Donc le vétérinaire ou le centre d'appel d'urgence sera lui mieux habilité à déterminer ce que vous pouvez donner à votre chat. Vous ne perdez pas de temps, vous vous montrez simplement pragmatique. Il ne faut surtout pas tenter de le soigner par vous-même, sauf bien entendu si vous savez ce qu'il faut faire, mais ne donnez pas de nourriture, ni de lait, ni d'huile, ni aucun remède maison à votre chat, sauf si vous connaissez la nature du poison avalé, ainsi que les recommandations précises dans ce cas de figure qui vous auront été données par le vétérinaire. Le fait de donner n'importe quoi au chat sans avoir pris les conseils d'un vétérinaire ou d'un centre d'appel d'urgence vétérinaire, n'oubliez pas, peut aggraver l'état de votre animal.
Et puis donc, un petit conseil, avoir toujours le numéro de téléphone de son vétérinaire à côté de son poste téléphonique ou dans son répertoire, dans son répertoire de mobile ou de smartphone, etc., etc.
Voilà. Voilà. C'est une évidence. On va dire un petit peu comme le médecin, hein, Martine. Hein. Ils font partie de la famille, donc il faut savoir les numéros d'urgence et les numéros des vétérinaires. Tout à fait.
Alors justement, Christine, vous l'avez dit, il ne faut pas essayer de faire vomir l'animal. Hein. Ça, c'est important.
Non, surtout pas. Il faut surtout pas le faire vomir, sauf si bien sûr le vétérinaire vous l'a conseillé. Mais enfin, certains poisons, surtout des acides corrosifs, peuvent provoquer plus de dégâts si vous faites vomir l'animal. Donc surtout, ne lui donnez rien. Le poison, il faut aussi le donner seulement dans les cas si le poison est avalé dans les deux dernières heures, si le chat est conscient et capable d'avaler. Donc si le poison n'est pas un acide, donc vous connaissez aussi parfaitement la nature du poison qui a été ingéré par l'animal. Parce qu'un poison qui est resté dans l'estomac pendant plus de 2 heures aura déjà été digéré et sera passé dans le sang. Donc il est inutile de faire vomir votre chat.
Alors, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que nous verrons ça la semaine prochaine, hein, l'empoisonnement a lieu au domicile. Donc là, quelquefois, il y a moyen d'identifier le produit toxique et nous verrons ça la semaine prochaine. Comment identifier le produit toxique ?
Voilà, tout à fait.
Et bon, et ensuite nous verrons, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que quelquefois l'empoisonnement est à l'extérieur, il y a des personnes malveillantes, des personnes carrément méchantes, et encore c'est un euphémisme, et des personnes qui, ou alors c'est vrai quelquefois quoique de toute façon maintenant avec les nouvelles lois ça sera de moins en moins probable, puisque voilà. on n'aura plus le droit d'employer des produits toxiques, des pesticides, ou des herbicides. Donc parce qu'il faut savoir que quelquefois aussi les chats ingurgite soit des limaces ou des animaux, enfin des souris, etc., ou des, qui ont ingurgité ces produits toxiques, et forcément le chat est contaminé, et on verra ça aussi ensemble, n'est-ce pas, Christine?
Pas de problème, Martine.
Alors, eh bien, avant de vous quitter, je crois que vous allez nous rappeler un petit peu une activité de votre refuge SPA de Vermel, et que vous allez nous dire que nous parler déjà de Pâques.
Alors oui, nous organisons, oui, puisque Pâques c'est mi-avril de mémoire, donc le 1er et le 2 avril, donc le samedi 1er et dimanche 2 avril, de 11h à 17h, nous organisons ce que j'ai nommé un marché de Pâques, et bien un marché de Pâques avec des compositions pour les petits et les grands, hein, des compositions à base de chocolat de Pâques. Donc je vous invite à venir nombreux à la salle Jean Jaurès à Vermel. C'est une petite salle qui se situe non loin de la salle des fêtes et de la mairie de Vermel. Donc je vous y invite le samedi 1er et dimanche 2 avril pour faire vos achats de Pâques au profit des chats et des chiens qui sont hébergés au sein de notre structure. Donc merci pour eux, venez nombreux, puisque vous savez que les manifestations sont une de nos principales sources de revenus pour pouvoir soigner, nourrir, entretenir les chats et les chiens qui sont chez nous. Voilà, merci pour eux.
Et bien évidemment, nous aurons l'occasion de le rappeler sur cette antenne. En tout cas, Christine, merci. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Martine. Merci. D'ici là, bonne semaine.
Merci à vous.
Un chat, c'est omnivore.
Ça veut dire que ça mange des hommes.
Non, ça veut dire qu'il mange de tout.
l'histoire d'un sacré félin, un curieux gros chat qui avait toujours faim. On l'appelait Pépette, c'était son petit nom. Il était né sur la planète des matougloutons. Il mangeait du nougat, du poulet, des anchois, un canapé, un casse-noix, du barbelé, la mort au rat et la télé. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Il passait son temps, c'est épouvantable, à aiguiser ses dents pour passer à table. On ne croisait jamais Pépette le ventre vide, car toujours il réclamait de quoi se remplir le bide avec un dictionnaire, un tire-bouchon, un pack de bière, un bûcheron, de la poussière et des boulons, un échelonnaire et mon polochon. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Mais un soir de nouba, Pépette a forcé, on retrouva le chat, le bidon percé par le petit trou. On pouvait voir sortir tout ce que le matou avait pu engloutir. Il y avait un cartable, un sergent, une étable, un président, mon portable, un toboggan, le bac à sable et D'Artagnan. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Le chat s'écria diantre, mon repas se débine, colla sur son ventre une jolie rustine. La morale de cette drôle de chanson, c'est qu'il vaut mieux avoir Pépette en photo qu'en pension. Parce qu'il mange des clous, des choux, des poux, des loups, du mou, des sioux, des roux, du gnou, des canards, des rasoirs, des cigares, des motards, des frigos, des motos, des mégots, des marmots, des moutons, du savon, du carton, du coton, des bretons, du bison, du poison, des teutons, des chatons, du houblon, Besançon, du saumon, des violons, des camions, des crayons, des wagons, des oignons, ma maison, des dindons, des crotons, et cette chanson. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout.
Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout.
Et qui mange et qui mange et qui remange encore.
C'était Aldebert et ses enfantillages.
Radio Plus, appréciez la différence.
Alors, les associations qui luttent contre le cancer sont nombreuses et c'est la Ligue nationale contre le cancer qui est l'organisatrice de cette semaine nationale qui se déroule du 14 au 22 mars 2017. Alors, la lutte contre le cancer, aussi bien dans le domaine de la recherche et des thérapeutiques que de celui des progrès accomplis sur le plan social et humain, est une préoccupation relativement récente et dans un passé encore proche de nous. C'est vrai que le cancer était considéré comme une maladie incurable et les malades qui en étaient atteints se voyaient refuser même l'accès aux hôpitaux car on les considérait comme contagieux. Et chaque année, la Ligue contre le cancer organise la Semaine nationale de lutte contre cette maladie. Cette semaine événementielle se déroule partout en France et a pour but de partager, de sensibiliser, d'impliquer, concerner tous les publics à la nécessité de lutter contre le cancer qui demeure la première cause de mortalité dans le monde. L'OMS estime que le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015.
Faire, laisser la folie ordinaire tout dévorer comme un cancer. N'est-il pas bien trop tard pour qu'émerge du brouillard? force d'y croire.
C'était Françoise Hardy. Alors, bon, c'est vrai que la meilleure lutte contre le cancer serait peut-être d'arrêter la clope. Cela ferait sans doute baisser le nombre de morts, ne croyez-vous pas ?
D'arrêter cette putain de cam en vente libre. Il faut une sacrée volonté, une détermination terrible. Chaque fois que j'arrête, c'est pas sérieux. Les 12 fumeurs que je vais taxer, mof 12 cibiches et même du feu, n'ont vraiment aucune volonté. 60 cigarettes dans la tronche, chaque jour et ce depuis 40 ans. À côté de la couleur de mes bronches, un béret basque paraît très blanc. Et je vous dis pas la thune non plus, j'ai laissé à ces enfoirés, ces dealers au coin de la rue, avec leurs carottes pour me faire marcher. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie. Quand je vois les mômes de 12-13 ans qui fument déjà comme des pompiers, je les imagine dans 25 ans à galérer pour arrêter. Je trouve héroïque et admirable ceux qui ont jamais eu besoin de cette merde, qui ont jeté cette fumée du diable, qui chlingue comme une vieille gerbe. Et ta criminelle trafiquant qui s'enrichit sur mon cancer et qui me supplie dans le même temps de filer ma pièce à Schwarzenberg. Super trust américain qui rend la planète toxico. Puis il t'explique que c'est pas bien, qu'il faut pas fumer dans les bistrots. Arrêtez la clope avant qu'elle n'arrête ma vie. Trop belle avec toi et mes potes, ah, trop jolie. Et puis surtout, je veux pas mourir. Surtout pas d'un truc si con, pas te laisser seul et puis me dire qu'après 30 ans d'un deuil profond, tu pourrais regarder un autre mec, peut-être même un fumeur de cigares. Et pourquoi pas te maquiller avec, l'éternité deviendrait cauchemar. À chacun sa motivation, moi c'est juste par jalousie que je veux me libérer de ce poison qui est un putain de plaisir aussi. Je veux bien me retrouver sur l'autre rive du moment que tu meurs avec moi. J'ai une idée pour que ça arrive, tu veux pas te remettre au tabac. Arrêtez la clope avant qu'elle me prive de toi. Je pourrais presque me passer de mes potes, mais pas de toi. Je pourrais presque me passer de mes clopes, mais pas de toi. Mais pas de toi.
Semaine du cancer, donc du 14 au 22 mars, l'occasion peut-être de prendre conscience que pour la cigarette. Et c'est avec Renaud que se termine cette émission. Alors dans quelques minutes, nous serons à nouveau ensemble pour Kaléidoscope et nous nous éclaterons en musique. Et pour cela, pas besoin de tabac. Je vous dis donc à tout de suite, ou si vous nous quittez à présent, eh bien à la semaine prochaine. Et très très bonne matinée à vous.